François Bernard.
On débute la seconde partie de cette émission avec notre reportage, le dernier de la série de 8 que nous a proposé Agnès Rougier ce mois d'août. Agnès Rougier qui a rencontré des directeurs de réserves francophones et africains lors d'un voyage en Afrique de l'Ouest pendant l'hiver 2009 pour comprendre sur quoi leur coopération pouvait déboucher. Alors, échanger des idées pour résoudre les problèmes, c'est le titre de cet ultime reportage et l'on retrouve Agnès Rougier au Burkina Faso aujourd'hui.
Première impression, ça a été de la fascination, de voir, malgré la différence de nos territoires, à quel point le cadre dans lequel on travaille, celui des réserves de la biosphère, est similaire, à quel point nos espoirs sont similaires, celui de parvenir à des régions qui font du développement durable, qui font de la mise en réseau, qui sont des endroits de dialogue, de confiance. Et donc, moi, ça m'a fasciné de voir à quel point c'est un tour de force réussi par l'UNESCO, d'avoir réussi à faire en sorte que des régions aussi différentes parlent exactement le même langage. Et quand je suis ici, en Afrique de l'Ouest, dans le W, dans la Pendjari, et que j'entends parler d'un comité MAB, Man and Biosphere, qui est le programme qui encadre les réserves de la biosphère, quand j'entends parler de zones tampons, de zones de transition, exactement la même terminologie, le même langage, si loin de chez moi, je trouve qu'on a, avec ce réseau, une opportunité internationale incroyable. On est doté d'un outil d'application et de réflexion sur le développement durable qui n'a aucun autre équivalent.
Jean-Philippe Messier est le directeur de la réserve de biosphère de Manicouagan-Wapishka au Canada. Il faisait partie du voyage l'hiver dernier. Un voyage qui a emmené les gestionnaires des réserves de biosphère de l'UNESCO, canadiennes et françaises, à la rencontre de leurs homologues africains et des populations locales. L'objectif de ce voyage, échanger des idées, des solutions aux problèmes et construire des partenariats solides entre les réserves du Nord et du Sud. Ces parcs et réserves de faune qui ont obtenu de la part du programme MAB, l'Homme et la Biosphère, programme de l'UNESCO, le statut de réserve de biosphère, répondent tous à des critères identiques concernant la conservation des espèces, la biodiversité, la recherche scientifique et le travail avec les populations. Aujourd'hui, ce réseau MAB compte 533 réserves dans 17 pays sur les 5 continents et il constitue un outil exceptionnel au service d'une pratique de développement solidaire et respectueuse de l'environnement.
Les réserves de biosphère sont, si on veut, des outils de décentralisation, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une prise en charge des clés de développement d'un territoire par les collectivités locales. Ce qu'on voit ici, dans la Pendjari, dans le W, ce sont des avigraphes, les associations villageoises, ce sont des communautés qui décident de gérer un territoire pour offrir des services de chasse, et donc de faire une répartition des produits de la chasse, c'est-à-dire de la viande, entre les villageois et les chasseurs, qui favorisent la communauté, de faire une répartition des profits entre les villageois, qui favorisent la lutte contre la pauvreté, qui favorisent le développement de ces communautés-là. Et donc, c'est véritablement des projets de prise en charge des responsabilités locales par les communautés. Et c'est la réserve de biosphère qui souhaite, si on veut, travailler à responsabiliser et à renforcer les capacités locales des collectivités qui sont soit à l'intérieur même de la réserve de biosphère, mais aussi dans les communautés qui sont, je dirais, riveraines à la réserve de la biosphère. Alors ça, c'est un point commun marquant. On travaille avec les gens, on fait du dialogue dans les réserves de la biosphère, on s'assoit ensemble, on bâtit une confiance entre élus, politiciens, décideurs locaux, citoyens, groupes d'intérêt, groupes communautaires, les écoles, etc. On bâtit une confiance entre les différentes strates d'une région, malgré les objectifs parfois, je parle pour mon expérience à Manicouagan, qui sont parfois diamétralement opposés. On parle d'industrie et de groupes environnementaux, par exemple. On peut bien saisir qu'ils ne parlent pas tout à fait le même langage. L'idée d'une réserve de biosphère, c'est s'asseoir avec les collectivités, bâtir une confiance, et ensuite de se poser la question, est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Les choses se font autrement, ici, dans la Pendjari, depuis cette mise en dialogue-là, qu'a opéré la réserve de biosphère avec les associations villageoises. Les choses ne se faisaient pas comme ça avant. Chez nous, c'est la même chose. La communication n'était pas aussi effective et opérante avant qu'il y ait ce travail-là de mise en commun des différents objectifs et intérêts et cette discussion ouverte basée sur la confiance acquise dans les différentes rencontres qui nous permet de se poser la question sur la façon dont on veut développer notre région, sur la création de richesses. Comment on la fait chez nous? Est-ce qu'on favorise telle industrie au détriment d'une ou est-ce qu'on essaie de trouver des compromis? Le compromis, c'est la base de toute négociation. Mais pour établir des compromis, il faut se parler premièrement. C'est ce qu'ils ont fait ici, ça a fonctionné. C'est ce qu'on tente de faire chez nous. Et on espère que ça fonctionne. Moi, quand je vois les exemples ici de bonne communication entre le parc, les associations villageoises, les chasseurs, etc., toutes sortes d'intérêts, je suis renversé de voir à quel point ces gens-là ont réussi à établir une communication qui fonctionne. Et là est tout le défi des réserves de biosphère. C'est un défi de bâtir la confiance, d'instaurer un milieu de dialogue. Et là est tout le point commun aussi. Indépendamment de nos différents dossiers, de nos différents enjeux, on se rend compte qu'on opère de la même façon. On fait de la mise en dialogue et on propose des alternatives au développement qui cadrent avec le concept bien connu du développement durable.
Qui dit mise en commun dit rencontre. Des rencontres virtuelles, par Internet ou concrètes, par le biais de visites croisées et d'échanges axés sur la découverte de solutions pratiques et d'idées. Et ces échanges sont au cœur même du programme mené par Djafarou Alitiomoko, le directeur de la réserve de biosphère de la Penjari au Bénin.
Oui, ça, je crois que un des succès du projet régional de renforcement des capacités scientifiques et techniques pour une gestion efficace des réserves de biosphère des zones arides et semi-arides d'Afrique de l'Ouest et du PNUE JEF avec comme agence d'exécution le secrétariat MAB UNESCO, c'est justement d'avoir favorisé et des visites croisées entre les 6 réserves de biosphère concernées par ce projet, à savoir la réserve de biosphère de la Maros-Hippopotame au Burkina Faso, la réserve de Komoé en Côte d'Ivoire, la réserve du W au Niger, la réserve de boucle de Baolé au Mali, Niokolo-Koba au Sénégal et bien sûr Penjari au Bénin. Et ces visites croisées, c'est dans le cadre de ces visites croisées que, malgré tout ce qu'on a décrit de bien d'original que nous faisons, il y a certaines choses qui n'étaient pas connues de nous.
Comme quoi, par exemple?
Je donne le cas de ces groupements de femmes qui, aujourd'hui, se sont lancées dans le maraîchage. C'est une activité qu'elles sont allées découvrir autour du Niokolo-Koba, autour de la réserve de biosphère de Niokolo-Koba, où, depuis très longtemps, les femmes là-bas ont bénéficié de l'appui des partenaires, notamment la FAO, le PNUE, pour justement se lancer dans ces activités. Lorsque les femmes des associations villageoises sont allées dans le cadre de ces visites croisées, elles ont découvert que c'était une opportunité en matière de développement d'activités génératrices de revenus. Mmh. Et elles s'y sont lancées et je crois qu'aujourd'hui ça marche et avec ces femmes. Tout comme on l'a fait, les autres réserves sont arrivées aussi vers nous pour voir ce que nous faisons, là où nous avons plus d'avance sur eux. Là, je donne le cas, par exemple, du personnel du W Niger. Une forte équipe est arrivée ici. Ils ont été impressionnés par, surtout, l'aspect coopération avec la communauté locale. Et aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'ils se sont aussi lancés dedans pour améliorer les relations avec les communautés locales pour partager également les bénéfices avec les communautés locales.
Dans toutes ces visites que vous avez effectuées, Jean-Philippe, il y a des points qui vous ont particulièrement frappé comme étant justement intéressants, transférables, transposables à ce que vous connaissez au Canada ?
Oui, il y a des points tout à fait transférables, transposables. Par exemple, nous formons chez nous des techniciens en aménagement cinégétique et halieutique. Donc, des techniciens en aménagement des ressources correspondant aux ressources qui sont soit chassées ou pêchées. Cinégétique étant chassé, halieutique étant pêché. Et on a remarqué dans les différentes réserves de la biosphère qu'ils ont des zones cinégétiques, des zones halieutiques et qui proposent du tourisme cinégétique ou halieutique. Alors, par exemple, nos techniciens seraient tout à fait habilités à venir faire un stage ici ou à travailler dans ces zones-là parce qu'en discutant avec les gestionnaires, on se rend compte que malgré la différence des techniques, la façon dont on gère la faune, la façon dont on dialogue avec les communautés riveraines, les problèmes de braconnage existent au Canada aussi. Les problèmes d'intrusion dans les parcs existent au Canada aussi. Et les outils de gestion par cartographie numérique, etc., sont communs aussi. Alors, pour exprimer un exemple tout à fait concret, des stages de techniciens de la réserve de biosphère de Manicouagan seront offerts à la Pendjari. Parce qu'il y a des connaissances comme ça, tout à fait transposables. Et moi, je vois tout de suite l'intérêt de ces jeunes-là qui viennent de chez nous de faire un stage de plusieurs mois, s'enrichir de façon beaucoup plus profonde que j'ai pu le faire en quelques jours des méthodes de gestion et revenir dans notre région, faire un exposé et expliquer à nos gestionnaires, à nos techniciens, comment les choses se font ailleurs, quels sont les éléments qui pourraient nous aider à améliorer notre gestion et quels sont aussi les éléments que nous avons développés qui pourraient aider les autres territoires. Et un autre élément, je pense, qui est très commun, c'est l'intérêt que toutes ces réserves de biosphère-là ont de communiquer ensemble. On a parlé de la pertinence de créer un blog des gestionnaires de réserves de la biosphère pour évidemment communiquer les bonnes expériences, les problèmes aussi, les pistes de solutions, etc. On a parlé de la pertinence de créer le bloc des chercheurs. Il y a des chercheurs associés aux réserves de biosphère dans l'université qu'on a visitée à Niamey. Il y a des chercheurs associés aux réserves de biosphère au Canada également. Alors, on va tenter avec l'UNESCO puis avec une coalition des réserves de biosphère qu'on a visitées, Pendjari W, Manicouagan et certaines autres réserves de biosphère, celle du Mont Ventoux en France qui est intéressée aussi. On va essayer de créer un outil qui va nous permettre de communiquer davantage.
Avec nous, il y avait également Ken Reyna, le gestionnaire de la réserve de biosphère du Mont Ventoux. Pour le situer, le Mont Ventoux est une montagne au sud de la France, non loin de la Méditerranée, montagne qui culmine à 1900 mètres. Au Mont Ventoux, les conditions de vie sont évidemment très différentes de la vie dans les réserves de biosphère d'Afrique de l'Ouest, où la pauvreté fait la loi. Mais tous ces acteurs de l'environnement ont en commun d'être des visionnaires et de penser le long terme. En Afrique, ceux-là sont aussi convaincus que ce travail ensemble pour préserver l'environnement finira par éliminer la pauvreté. Ken Reyna.
J'aurais tendance à croire que finalement, dans nos pays de l'hémisphère nord, on a perdu cet aspect visionnaire. On n'est pas si... on perd ses capacités d'innovation, de mobilisation locale, cet esprit, ce lien entre les hommes, on le perd. Et moi, je l'ai trouvé ici. Et c'est ce que je recherche finalement. Et c'est pour cela que l'on souhaite aussi développer une coopération entre écoles de la réserve biosphère du Mont Ventoux, avec une école à la Tapoa, la réserve biosphère du W côté Niger, et puis une école de la Pendjari au Bénin, pour que les enfants du Ventoux découvrent cette réalité-là et que ça casse un petit peu toutes ces visions formatées, anticipées, cette vision que l'on a de l'Afrique qui est fausse dans les faits, qui est vraiment fausse, et que les enfants de ces deux pays puissent voir la réalité des petits Français, qui n'est peut-être pas celle qu'ils croient aussi, et puis surtout cet enrichissement mutuel, cet échange de culture et ce partage de valeurs en éducation, en environnement et même plus que ça en éducation développement durable. Moi, c'est ce que j'ai envie que les enfants du Ventoux découvrent, et je pense qu'on peut faire changer les choses aussi comme ça.
Ouais. Donc ça, c'est projet concret, jumelage avec trois écoles, travail ensemble. Qu'est-ce qu'elles vont faire, les écoles? Elles vont échanger comment?
Déjà, elles vont échanger par courrier des créations artistiques, des créations de contes, de dessins, etc. Elles vont échanger des colis, bien évidemment, peut-être de produits locaux, d'ouvrages, etc. On a la possibilité aussi, grâce au relais des réserves de biosphère locales, de pouvoir les faire échanger par Internet. Donc, on l'espère qu'elles puissent se voir en direct sur les écrans d'ordinateur. Et je pense que ça serait vraiment magique pour les enfants du Ventoux, pour les enfants du Niger et pour les enfants du Bénin de pouvoir se dire... En ce moment, de l'autre côté de l'écran, au même moment que ce que je suis en train de faire, il y a des enfants en Afrique, il y a des enfants en France qui partagent. Et là, j'aimerais vraiment être aux côtés des enfants ce jour-là, parce que je pense que je partagerai la même émotion qu'eux. Ça serait vraiment quelque chose d'exceptionnel, de magique.
Il y a d'autres projets concrets là, auxquels vous avez pensé, qui sont nés de ces rencontres, là, Ken Reyna?
Alors, nous sommes venus avec les collègues des réserves de biosphère et du comité national de l'UNESCO au Canada et le comité français des réserves de biosphère et bien évidemment l'UNESCO pour voir comment on pouvait monter un programme de coopération entre ces quatre pays et ces trois continents. L'idée, c'est aussi de développer un outil de développement économique local, bien évidemment durable, qui serait placé sur une dimension internationale sous l'égide de l'UNESCO pour que l'on puisse valoriser la production locale, qu'elle soit artisanale ou agricole, pour faire en sorte que l'on puisse valoriser l'écotourisme, pour faire en sorte que l'on soutienne l'agriculture locale. Et je pense là qu'on a vraiment une opportunité exceptionnelle. C'est pas donné à toutes les régions dans le monde, à tous les pays, de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance par l'UNESCO. C'est quand même un gage de qualité, un gage de qualité sur la nature certes, mais aussi sur les hommes.
La création, la construction d'une réserve de biosphère est donc un processus à long terme, un processus souvent en contradiction avec le temps politique. C'est aussi un processus qui apporte des changements de fond dans les relations entre les différents acteurs. Par exemple, on peut citer le cas des gardes forestiers. Les gardes forestiers sont des militaires, mais aujourd'hui, ils doivent oublier la répression pour former et sensibiliser les villageois. Autant dire que c'est pour eux un virage à 180 degrés. Alors pour Jafarou Ali Tiomoko, à son poste de directeur de la Penjari depuis 1999, tout n'a sûrement pas été toujours facile. Et on imagine même qu'il y a eu des moments de découragement, Jafarou Tiomoko.
Oui, il y a toujours de ces moments, surtout dans la mesure où c'est quand même des innovations que nous apportons. Et ça rencontre parfois des résistances à certains niveaux, même au niveau du cadre institutionnel. On est souvent incompris parce que on vit des réalités, on côtoie la population, on dialogue avec la population et ceux qui sont un peu loin, qui ne sont pas dans cette réalité, lorsque nous prenons certaines décisions, on est incompris, ça engendre des conflits, parfois violents et qui finalement épuisent. Mais ce qui est assez réconfortant, c'est que par l'argumentation, ça finit par s'imposer. Et c'est comme ça qu'on évolue.
L'avenir avec une autonomie à moyen terme, il vous semble comment? Il vous semble plutôt positif, Jafarou Tiomoko?
Tout à fait, l'avenir nous semble positif, surtout malgré les embûches qu'on rencontre. Au bout du rouleau, on voit qu'on avance toujours. On va donc de succès en succès. Et c'est d'ailleurs ça qui nous réconforte dans nos actions actuelles, à persévérer, à renforcer tout ce que nous faisons. Mais on se dit que de toute manière, tout n'est pas complètement gagné. On n'a pas encore atteint un chemin de non-retour. À tout moment, avec une autre vision aux commandes, les choses peuvent basculer. Mais par rapport à ça, nous travaillons sérieusement à donner beaucoup plus de responsabilités aux communautés locales par rapport à la gestion de la réserve. Et nous essayons donc de les appuyer dans le sens du renforcement de leurs capacités d'organisation et de gestion. Donc avec ces capacités renforcées, avec ces responsabilités de plus en plus accrues, elles sauront certainement se défendre le moment venu contre une remise en cause éventuelle de tout ce qui est acquis.
C'est une dimension politique, en effet. C'est très difficile en Europe et en France d'avoir ce type de fonctionnement. Moi, là, je trouve que les Africains sont vraiment en avance par rapport à nous, quoi. Cette autogestion, comme vous le dites, cette façon de mobiliser les gens pour qu'ils gèrent vraiment leur territoire, qu'ils se l'approprient, qu'ils le développent, qu'ils le protègent, c'est beaucoup plus compliqué en France. Donc moi, là, je tiens vraiment à féliciter les amis du Niger et du Bénin pour ce qu'ils ont fait. C'est vraiment exemplaire. Mmh. C'est innovant au niveau international, c'est exemplaire. Vraiment, félicitations.
Et oui, souhaitons longue vie à ces terrains d'expérience solidaire. Le temps que les populations locales puissent récolter les fruits de leur engagement. Le temps, pour elles, de constater que l'avenir sera effectivement meilleur si la biodiversité qui les entoure garde toute sa richesse.
Une émission de Radio France Internationale, produite en partenariat avec le réseau MAB UNESCO, la Commission canadienne de l'UNESCO et le Fonds français pour l'environnement mondial.
Reportage d'Agnès Rougier, mis en onde par Alain Bleu. Demain, nous nous intéresserons au commerce du bois dans les forêts africaines. Il est l'heure de TerraTech. Dominique Dezonnet reçoit aujourd'hui Xavier Lacan. C'est le fondateur d'une entreprise spécialisée dans la vente de balanzan. Le balanzan, c'est un arbre qui a la particularité de retenir l'eau.
Bonjour et bienvenue dans TerraTech. Dans quelques instants, nous saurons comment mettre en relation des acheteurs de CO2 avec des agriculteurs sahéliens. C'est l'objectif du site zambal.com.
TerraTech, actu.
En bref.
Des nouvelles de la planète avec notre expert Jean-Paul Évrard, rédacteur en chef du mensuel Agriculture et Nouvelles Technologies. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Quoi de plus pratique qu'un téléphone portable sans chargeur ?
En convertissant les ondes radio en énergie, Nokia a créé un prototype de téléphone qui produit 5 milliwatts en combinant les radiations issues des antennes télé, des relais téléphones et Wi-Fi à des sources d'énergie solaire. Le fabricant espère atteindre les 50 milliwatts. Il faudra pour cela élargir la fréquence de récupération de l'énergie. On passera pour cela de 500 MHz à 10 GHz.
Et 4 ans, c'est le temps qu'il faudra attendre pour acheter ce nouveau téléphone.
TerraTech, l'entretien.
Connaissez-vous le balanzan ? C'est un arbre adapté aux terres arides du Sahel. Il peut fixer près d'une tonne de CO2 en 25 ans.
C'est aussi le verlan de Zambal, une société qui a pour vocation de vendre ses arbres. Pour 39 euros, vous achetez un balanzan à un agriculteur sahélien et vous réduisez le taux de CO2 en atmosphère, ce qui crée un réseau de solidarité climatique.
Et vous recevrez des nouvelles de votre arbre sur le site internet zambal.com, comme nous l'explique Xavier Lacan, son fondateur.
Le balanzan, c'est l'acacia albida. C'est un arbre traditionnel du Mali, du Sahel en général, qui a pour intérêt de perdre ses feuilles en saison des pluies. Ce qui fait qu'au moment où l'agriculteur laboure, les feuilles sont mélangées au sol et elles l'enrichissent. Et donc, contrairement à tous les autres arbres, c'est un arbre sous lequel les plantes, par exemple, de maïs ou de mil sont beaucoup plus grandes. C'est un arbre qui, au bout de 15 ans, il se met à la fois à produire de la fertilité avec ses feuilles, mais aussi... Il produit des gousses, à peu près 4 kilos de gousses par arbre et par an, qui sont très appréciées par les ruminants en période sèche. Et également, il crée de l'ombre, ce qui fait que les animaux viennent se reposer dessous et crée également de la fertilité avec leur déjection. C'est un arbre qui, à l'âge adulte, a fixé une tonne de CO2. Il fixe une tonne de CO2 pendant sa croissance jusqu'à à peu près à 25 ans. Le lien, le fil rouge du projet, c'est le CO2, puisque les Européens dégagent 8 tonnes de CO2 par an à peu près, les Chinois 4 tonnes, les Indiens 2 tonnes, les Sahéliens pratiquement zéro, sauf qu'il fait déjà 50 degrés chez eux et que les gaz, il n'y a pas de frontière pour les gaz. Donc un réchauffement chez eux, le Sahel, fragiliserait encore un peu plus l'écosystème et la capacité des terres à alimenter la population. Et donc la proposition de Zambal, c'est pour quelqu'un qui souhaite quelque part compenser ces dégagements de CO2, c'est d'investir sur des arbres qui sont plantés dans le Sahel par un paysan. Sur le site, on a deux formules. La formule qui me semble la plus intéressante, c'est l'abonnement. L'acheteur manifeste son souhait de s'abonner, reçoit en retour un courrier type à remettre à sa banque, sur lequel il choisit, par exemple, tous les mois, d'investir 10 euros, 20 euros, 40 euros. Chaque fois que son compte dépasse le montant d'un arbre, c'est-à-dire 36 euros, Zambal fait planter un arbre pour lui par un paysan malien. Une graine va être mise en pépinière, elle va lever, ensuite elle va être implantée par l'agriculteur. Au bout d'un an, il va recevoir 1 euro si l'arbre est vraiment implanté, et ensuite tous les ans, pendant 15 ans, il va recevoir 1 euro après constatation du bon développement de l'arbre.
L'idée aussi, c'est d'utiliser les nouvelles technologies, qu'on ait un véritable suivi de l'arbre.
Les nouvelles technologies nous permettent de donner un côté matériel, déjà en identifiant l'arbre par GPS. Donc on a un système GPS qui permet donc à la fois d'identifier l'arbre, de saisir sa hauteur et de prendre une photo. Ensuite, on met ces informations disponibles sur le site internet. Ces technologies nous permettent à la fois par le GPS et à la fois par internet de rapprocher un acheteur européen et un agriculteur malien.
C'est important cette transmission, cette communication même à travers un arbre nord-sud.
Je pense que c'est extrêmement important. Bon, je pense qu'il y a qu'un monde et que ben, il y a une très grande méconnaissance par les Européens du contexte d'un paysan africain, parfois réciproquement également. Je pense que les nouvelles technologies nous permettent de nous rapprocher.
Vous espérez combien de CO2 capté ainsi avec vos arbres ?
1 million d'arbres plantés d'ici 5 à 10 ans et donc 1 million de tonnes fixées d'ici une trentaine d'années.
Vous l'aurez compris, TerraTech c'est terminé. Retrouvez toutes ces infos en ligne sur www.rfi.fr ou encore sur www.tvagri.info. Et si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire à terratech@rfi.fr.
Merci Dominique Dezonnet. Rendez-vous demain avec une association qui a pour mission de créer du lien et de l'entraide dans le monde de l'agriculture. Notre invité pour commenter l'actualité sera Olivier Braunstefer, qui est directeur des programmes de CARE France. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je sais, c'est trop court, mais consolation, on se retrouve demain. Merci à Sophie Janin, Delphine de Dianous, à Steven Hesley qui m'ont aidé à vous présenter cette édition de C'est pas du vent. Prochain rendez-vous, c'est demain, bien sûr. Même planète, même heure. Et savez-vous comment cela se dit en chinois ? Non ? Eh bien, écoutez Lin Lan.
同一星球,同一时刻.
RFI en chinois, 3 heures par jour, matin et soir. Allez voir sur notre site rfi.fr pour plus d'infos. À demain !